bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau volet de Histoire Nocturne. Chaque soir, à 22h, nous vous proposons de suivre des fictions radiophoniques qui vous plongent dans l'univers du crime, des crimes célèbres qui ont marqué la mémoire de l'homme et reflètent aussi les malaises et les fantasmes d'une époque. Pour le premier numéro, nous avons fait découvrir ou redécouvrir l'inventeur de l'escroquerie au mariage de dimension industriel, Henri Désiré Landru. Puis nous vous avons présenté Raoul Villain, le bien nommé, un petit frustré. Il tue un grand homme politique, Jean Jaurès. Ce soir, nous nous intéressons à Violette Nozière, la parricide de la rue de Madagascar à Paris dans les années 30. Violette était une brune au teint pâle que les journaux de l'époque comparaient à une fleur vénéneuse. Elle donnait ses rendez-vous dans un hôtel de la rue Victor Cousin près de la Sorbonne, écrit Patrick Modiano dans son roman Fleur de ruine qui évoque le Paris des années 1930. Violette, fleur vénéneuse, est une parricide. Et le parricide, le crime des crimes. Il fut aboli en tant qu'incrimination spécifique par Louis-Philippe sous la monarchie de Juillet. Pour le qualifier, on parle désormais du meurtre d'un ascendant légitime ou naturel s'il s'agit de mère et de père adoptif. Au panthéon des parricides, Violette Nozière se situe quelque part entre Pierre Rivière et Œdipe. Pierre Rivière, le paysan du Calvados, a 20 ans quand il égorge mère, frère et sœur. Violette, petite parisienne du petit peuple, en a 18 quand elle tente pour la première fois d'empoisonner ses parents. L'absence complète de morale, le goût exacerbé du lucre et du plaisir, l'inconscience du mal, la cruauté la plus atroce, l'indifférence la plus absolue, dénuée de tout remords, font de son crime le superlatif du crime. Écrit Détective Magazine dans son numéro du 10 septembre 1933. Pourtant, 30 ans plus tard, Violette Nozière mourra avec un casier judiciaire vierge. Réhabilité. La parricide, encensée dans les années 1930 par les surréalistes, finit sa vie en bonne mère nourricière au Petit Quevilly en Seine-Maritime, en compagnie de sa vieille maman, qu'elle a voulu éliminer à deux reprises par empoisonnement. Violette est une jeune fille rêveuse des années folles. Cherchant éperdument la vraie vie, loin, très loin de la petite prison familiale de la rue de Madagascar dans le 12e arrondissement, elle va commettre un forfait dont François Mauriac a dit qu'il était plus grand qu'elle. Comme de nombreuses jeunes filles, Violette voudrait échapper à l'école, rouler toute la nuit dans une belle voiture conduite par son grand amour, une Bugatti qui la transporterait à toute allure pour voir la mer. Les Sables d'Olonne, par exemple. Oh, emmène-moi au bout du monde, dit-elle dans ses rêves à son amant imaginaire. Violette ne songe qu'à s'enfuir du deux pièces cuisine où elle vit avec ses parents. Le monde est vaste, pourquoi devrait-il s'arrêter au mur du lycée Fénelon ou au bout de la rue de Madagascar ? Quand on aime, il faut partir. Blaise Sandrard a bien raison. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant. Ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Scande l'un de ses poèmes. Entre Fénelon et Sandrard, l'archevêque de Cambrai et le poète Bourlingueur, la jeune Violette choisira toujours celui qui fait voir au-delà de l'horizon. Cela désole bien sûr ses parents qui, prêts à se sacrifier pour elle, persuadés du haut destin de leur fille, l'ont inscrite au lycée Fénelon dans le quartier latin pour qu'elle fasse des études brillantes. Elle aurait pu se marier avec un avocat, un médecin ou un grand reporter. Devenir une jolie femme de la riche bourgeoisie. Un parricide plus tard, elle se mariera avec le fils du greffier de la maison d'arrêt de Rennes. À 16 ans, on étouffe, surtout quand la promiscuité d'un petit appartement vous oblige à partager votre intimité avec celle de vos parents. Dans le logement modeste du 9 rue de Madagascar, à proximité de la gare de Lyon, la jeune Violette rêve d'aventures, érotiques, exotiques ou spirituelles, qui sait. Ses professeurs la jugent surnoise, paresseuse, une condamnation sans appel comme l'école sait parfois en prononcer. Elle sèche les cours, fait le mur, acquiert vite la réputation de petite coureuse, va danser et boire. Avec sa copine Madeleine, plutôt que jouer à la belote avec son père qui lui raconte sa guerre au chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée. Mineure, vivant comme une femme du monde, elle aime les bars, les bals, les hôtels. Pour vivre sa vie rêvée d'ange, qui croit à l'amour fou, elle commet les petits vols chez ses parents ou les commerçants, pose nue dans un magazine et à l'occasion se prostitue. À 17 ans, elle apprend qu'elle a la syphilis. Elle noie son désespoir et son désœuvrement dans les brasseries, les soirées et les salles obscures du quartier latin. « Que font les gens quand ils s'enferment en masse dans les salles obscures ?» demandera bien plus tard Jean-Luc Godard. Il brûle de l'imaginaire pour réchauffer le réel. Fréquentant le mêleux étudiant bourgeois du côté de la Sorbonne, Violette magnifie ses parents en faisant croire que son père est ingénieur du PLM, lui qui n'a été qu'ajusteur, mécanicien et chauffeur. Elle raconte aussi que sa mère est première main chez la grande couturière Jeanne Paquin. Violette Bovarise romance sa fabule. Elle laisse entendre que son père, jaloux de ses conquêtes, se fait de plus en plus pressant avec elle. Elle ne recule pas non plus devant le chantage au suicide. Grâce à ce stratagème, plus méthodique que désespéré, elle parvient à convaincre le docteur Deron, qui lui a révélé sa maladie vénérienne, de produire un faux certificat de virginité. Ruse perverse qui lui permet, avec la complicité de son médecin, de transférer sa culpabilité sur ses parents. En mars 1933, Baptiste Nozière, convoqué à l'hôpital par le médecin qui suit sa fille, prévient sa femme Germaine que la maladie de Violette est héréditaire. Un cas d'hérédosyphilis. Les responsables, ce sont donc eux. Il y a sans doute quelque chose de pourri dans la lignée des Nozières ou des Hésard, le nom de jeune fille de sa mère. Un gène diabolique chez un ancêtre paysan auvergnat ou chez un aïeul viticulteur bourguignon qui compromet l'avenir d'une jeune fille rêveuse. Quoi de plus tragique ? Les lois de l'hérédité sont les vraies lois du destin. Les parents, honteux, coupables et complexés, endossent la faute originelle. Rue de Madagascar, la vie commune devient un enfer. Le 23 mars, invoquant une recommandation du docteur Deron qu'elle a inventée de toutes pièces, Violette fait avaler du soménal à ses parents pour leur, explique-t-elle, prévenir la contagion de la maladie. Dans la nuit, Germaine et Baptiste se sentent mourir. Mais la dose de poison étant trop faible, Germaine est transportée à l'hôpital Saint-Antoine et Baptiste revient à lui. Un incendie s'étant déclenché dans l'appartement au cours de la nuit, Violette est allée chercher du secours chez ses voisins du palier. L'alibi est parfait. L'enquête conclut très vite à une intoxication des parents
par la fumée.
Fin juin 1933, au retour de vacances de chez son grand-père paternel à Prades, en Haute-Loire, Violette rencontre à Paris un jeune étudiant en droit bordelais, Jean-Luc Dabin, à ne pas confondre avec Jean Gabin, ainsi que ses amis Potache le précisent dans le film de Claude Chabrol, devient son amant. L'homme va vivre à ses crochets et celle qui a été une prostituée occasionnelle se transforme en souteneuse pour l'entretenir. Soucieuse qu'il soit toujours le plus beau pour aller danser ou pour partir à la mer, elle reprend ses petits larcins, volant à nouveau les bas de laine de sa mère et la paye de son père. La vie quotidienne reprend, plus que jamais machine à broyer les espérances folles et les rêves un peu flous. Violette est pressée. Si elle veut épouser Jean et vivre dans le confort qui lui sied, il lui faut mettre la main sur toutes les économies des parents, de gré ou de force. Juillet 1933, les mérites du père et ses années de service sont enfin consacrés. Le temps d'une journée, Baptiste devient chauffeur officiel du train du président de la République. Hélas, aussitôt élu, aussitôt réprouvé. Peu de temps après son jour de gloire, il tombe de sa locomotive et est hospitalisé, puis contraint de rentrer chez lui en convalescence. Famille, je vous hais. Le 21 août, 5 mois après sa première tentative avortée, Violette rejoue le même scénario, plus élaboré cette fois. Une fausse ordonnance et 3 tubes de soménal au lieu d'un. Les comprimés sont écrasés et répartis équitablement dans 2 verres. Dans 1/3, celui qu'elle boira avec ses parents, au cours de la soirée, un médicament anodin. Violette a marqué ce verre d'une croix pour ne pas se tromper. Le lendemain soir, après avoir pris soin d'ouvrir le gaz pour simuler un suicide des parents, elle repasse rue de Madagascar et donne l'alerte. Après avoir analysé les relevés de gaz de l'appartement, les enquêteurs constatent que la quantité évaporée est insuffisante pour asphyxier 2 personnes. Le stratagème était un peu gros. Cette fois, elle échoue. Conduite par un commissaire de police à l'hôpital Saint-Antoine pour une confrontation avec sa mère, Violette profite d'un instant d'inattention du policier pour s'échapper. Sa fugue, la dernière, l'accuse. En attendant, la mère s'est réveillée avec un furieux mal de tête et des nausées. Le père, lui, ne reviendra plus jamais contrarier les grandes espérances de sa fille. Une petite semaine de cavale dans Paris et Violette est arrêtée par le commissaire Marcel Guillaume dans le 7e arrondissement après avoir été trahie et dénoncée par un jeune homme bien né. La haine sociale ne connaît pas de trêve. André de Pinguet a-t-il voulu livrer à la police la jeune prostituée, la jouisseuse qui fait la fête au bal Tabaret à Montmartre le lendemain de son crime, la sorcière parricide, la fille du petit peuple ou simplement un amour frustré, un fantasme inacceptable ? André Breton ne sera pas tendre avec le vicomte délateur qui donne la fille au sortir du lit. Pas tendre non plus avec tous les rouages de la vieille société bourgeoise et patriarcale, les infâmes chroniqueurs judiciaires, l'amant Jean Dabin, camelot du roi Macron. Le commissaire Guillaume est une star au quai des Orfèvres. La bande à Bonneau, Landru et l'assassin du président de la République Paul Doumer figure à son tableau de chasse. Le parricide de la jeune femme perdue des années folles est donc, si l'on en juge par la qualité des héros policiers qui s'en chargent, bien plus qu'un fait divers monstrueux. C'est une histoire dont l'étoffe est faite de fils qui lient entre le pouvoir de la famille, la cohésion sociale, l'ordre moral et les principes de la civilisation occidentale. Violette n'a pas d'alibi mais un motif. Quand le commissaire Guillaume l'interroge, après moult sanglots et hésitations, elle avoue l'inavouable. Son père aurait abusé d'elle pendant des années. Seule sa mort pouvait la libérer. Elle réitère cette accusation pendant toute l'instruction et la maintient au cours du procès qui s'ensuit. Ce qui ne résiste pas au réquisitoire de l'avocat général, à l'étrange omerta qui entoure encore à l'époque l'idée même de prononcer le mot inceste, au fait qu'elle a quand même tenté d'empoisonner aussi sa mère et aux économies de ses parents dont elle aurait hérité si elle n'avait pas été démasquée. À l'automne 1934, après deux jours de procès, la jeune fille est condamnée à mort.
Bande de saligots ! Vous me dégoûtez !
S'écrie Violette Nozière à l'énoncé du verdict.
Je dis la vérité, c'est honteux ! Vous n'avez pas été... Vous n'avez pas été pitoyable.
Apparemment, elle s'estime incomprise et mal jugée. À moins que pour la première fois, elle vienne d'ouvrir les yeux sur sa propre monstruosité. Ultime et vain cri de haine. Les jurés ont bien compris à qui ils avaient affaire. Les jurés sont sûrs de sa culpabilité, mais pas les surréalistes qui en font une icône. Pas Aragon, qui la déclare victime du patriarcat, pas Marcel Aimé, indéfectible défenseur qui écrit dans le journal Marianne « À condamnant à mort Violette Nozière, le tribunal a voulu affirmer le droit du père à disposer librement de ses enfants, droit de vie ou de mort, droit de cuissage aussi !» Le magistrat instructeur, lui, a attribué trois mobiles au parricide de Violette. La cupidité, la vanité et le désir d'indépendance. Mais les femmes échappant à la guillotine depuis le début de la Troisième République, sa peine est commuée par Albert Lebrun aux travaux forcés à perpétuité. Un convoi de femmes enchaînées les unes aux autres, comme des esclaves noirs du Mississippi ou des guerriers partent derrière le char d'un consul romain, l'a conduit à la prison de Haguenau, dans le Bas-Rhin. De 2 ans d'une détention extrêmement rigoureuse où elle connaît le froid, la faim, l'isolement, avec comme seul recours pour soulager son âme quelques visites des petites sœurs de Bethany, Violette adresse une lettre à sa mère qui fera les gros titres des journaux de l'époque. Elle se rétracte et retire les accusations d'inceste contre son père. Le poète André Breton y avait cru, pourtant, qui se fendit d'une analyse sans doute plus brillante que fondée. Selon lui, le père avait donné à sa fille un prénom dans la première partie duquel on peut démêler psychanalytiquement son programme. Peut-être qu'en se rétractant, Violette a-t-elle découvert la puissance de la troisième vertu théologale qui est beaucoup plus forte que la foi et la charité, à savoir l'espérance. Celle de Charles Péguy, cette vertu surnaturelle par laquelle nous attendons de Dieu avec confiance la grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l'autre. Quand les troupes allemandes envahissent la Belgique en mai 1940, on la transfère de sa prison alsacienne vers la maison centrale de Rennes. En train, s'il vous plaît, avec un compartiment réservé. C'est la première station dans son long chemin de croix vers la délivrance. Devant sa conduite exemplaire, sa contrition, sa nouvelle ardeur spirituelle et la détermination de son avocat, le maréchal Pétain, champion de l'esprit de sacrifice contre l'esprit de jouissance, réduit sa peine à 12 ans. Dans sa nouvelle prison bretonne, Violette reçoit une formation d'aide comptable et s'éprend de Pierre, apprenti cuisinier à Rennes, un des fils du nouveau greffier comptable de la prison, nommé depuis 1945. Le 1er septembre de la même année, le général de Gaulle signe un décret qui suspend son interdiction de séjour sur le territoire français. La criminelle absolue, la sorcière repentie, la salope transfigurée enceinte, la folle hystérique qui a cristallisé toutes les haines et les angoisses de la société française dans les années 1930 est libre. Elle s'installe boulevard Jourdan, dans le 14e arrondissement, sous un nom d'emprunt qui, par une de ces répétitions pathologiques dont l'inconscient le secret, n'est autre que celui de sa mère, Germaine Hézard. La boucle est bouclée, les liens de sang sont rétablis. La sublime prophétie de Paul Éluard, écrivant à son procès qu'elle avait défait l'affreux nœud de serpent des liens du sang, ne s'est pas réalisée. Violette, qui rêvait peut-être avec le poète qu'un jour il n'y ait plus de père dans le jardin de jeunesse, Violette, héroïsée par André Breton en 1933, illustrée par Man Ray, Max Ernest, Salvador Dali et leurs amis, devient secrétaire comptable de la Fédération chrétienne des étudiants. Contrariant sa vocation de nymphe surréaliste, elle se marie dans le village où elle est née, Neuvy-sur-Loire, fin 1946, avec Pierre, l'homme qu'elle a rencontré à la prison de Rennes. Son mariage rappelle celui de Maria Braun, qui, dans le film de Fassbinder, prend époux sous les bombes à la fin de la guerre. Le village ayant été lourdement bombardé par les Alliés et la mairie détruite, La cérémonie est célébrée dans une école. Violette et Pierre auront 5 enfants, une fille, 4 garçons qui ignoreront tout du passé parricide de leur tendre maman, avant de l'apprendre par la presse à sa mort. En 1953, le couple avait acheté un petit hôtel dans le village de Lorne, puis un autre en Seine-Maritime. Après le décès accidentel de Pierre, près de Rouen, Germaine, ex-victime de sa fille Violette, s'installe chez elle pour l'aider à surmonter les nouvelles épreuves de la vie. 3 ans avant de mourir, la fille au poison est réhabilitée par la cour de Rouen en mars 1963. Une première dans l'histoire de la justice française.
Cette réhabilitation, j'y tenais pour mes enfants. Pour moi, ça m'est égal. Ma vie est finie. Je suis heureuse que ma mère ait, à qui j'ai tout dit et enfin tout compris. Compris la vérité. Elle sait que j'étais innocente. Malgré ce que j'avais fait. Elle m'a pardonné. Oh.
La gueuse vagabonde au crime monstrueux, moquée par les chansonniers de l'entre-deux-guerres, meurt 2 ans avant sa mère. Elle repose dans le caveau familial à Neuvy-sur-Loire, près de son mari, de son père et de sa mère. Sans que personne ait jamais su si la fille avait dit toute la vérité à la mère, ni si la mère l'avait comprise, elle qui au procès s'était portée partie civile et contre toute attente avait sidéré l'assistance lorsque, en larmes, elle avait crié au juré
« Pitié ! Pitié ! Pitié, c'est mon enfant !»
Histoire nocturne, votre rendez-vous quotidien sur FM+. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces affaires dans Paris, capitale du crime de Frédéric Diefenthal et de Paul-Henri Moinet, un ouvrage publié aux éditions Livre de Poche. Je vous dis à demain, même heure, même sujet et même micro. Sur ce, je vous la souhaite douce et bonne cette nuit, bien sûr. Bye bye.